Bonjour à tous et à toutes, au micro Paul Ouzi Meyerson qui a le plaisir de vous présenter une nouvelle émission de notre magazine Chronique pour la paix. Chers auditeurs, vous savez qu'il y a des choses qu'un ambassadeur ne dit pas, ou alors indirectement par périphrase. Mais quand l'ambassadeur brise un tabou, la diplomatie s'enflamme. C'est ce qui est arrivé à David Friedman, le représentant des États-Unis à Jérusalem, qui, dans un entretien au célèbre journal New York Times, le 8 juin dernier, a déclaré, et là je le cite, « Dans certaines circonstances, je pense qu'Israël a le droit d'annexer une partie, mais pas l'ensemble de la Cisjordanie. » Évidemment, après ces déclarations, les critiques ont fusé tant en provenance de l'opposition israélienne que des États-Unis et de l'Europe. Bien entendu, plusieurs ministres du gouvernement de Netanyahou sont intervenus pour soutenir l'ambassadeur américain. Mais David Friedman a refusé de dire quelle serait la position de l'administration Trump si le premier ministre Netanyahou tenait sa promesse électorale d'annexer les implantations israéliennes après les élections en septembre. De plus, David Friedman s'est gardé d'indiquer si le principe du rattachement de territoire palestinien à Israël s'effectuerait dans le cadre du mystérieux plan de paix américain, déjà rejeté par l'autorité palestinienne malgré qu'on ne connaisse pas le contenu. Alors, maladresse ou ballon d'essai ? Les propos de David Friedman n'ont pas été confirmés par le ministère des Affaires étrangères américain. Aussi, nous demeurons dans le flou et l'approximation. Pour nous aider à comprendre la situation, nous allons entendre Elie Barnavi, que beaucoup d'entre vous connaissent. Elie Barnavi a été l'ambassadeur d'Israël en France. Universitaire, historien et écrivain, il est actuellement directeur scientifique du Musée de l'Europe à Bruxelles. Elie Barnavi, êtes-vous avec nous ?
Oui, bonjour.
Très bien, Elie. Bonjour, Elie. Très content de vous avoir parmi nous et avec nos spectateurs. Une première question. Est-ce que vous pensez que les propos de l'ambassadeur américain en Israël sont un premier pas vers l'annexion de certaines parties de la Cisjordanie ? Est-ce qu'on a fait tomber un tabou avec cette déclaration ? Parce que depuis 1967, je ne pense pas qu'un gouvernement israélien avait clairement évoqué l'annexion.
Oui, en effet, c'est la première fois que l'administration américaine, par la voix de son ambassadeur, se déclare favorable à cette annexion. Vous savez, c'est une nouveauté absolue, bien qu'en sous-main, ils aient parfois favorisé la colonisation, bien que lui-même, on savait que Friedman était un fervent défenseur, un partisan de la colonisation. Lui-même, d'ailleurs, a donné de l'argent, avant d'être ambassadeur, a donné de l'argent des colonies américaines, notamment la colonie de Beit El. On savait tout cela. Là, ce qui est nouveau, c'est que par la voix d'une personnalité importante et très influente à la Maison-Blanche, on déclare le droit, je dis bien le droit d'Israël à annexer certaines parties de la Cisjordanie. Ça, c'est une nouveauté. De la même manière que c'est une nouveauté, la volonté d'Israël affichée d'annexer certains de ces territoires. Ça non plus ne s'est jamais fait. Tout a toujours été dans le non-dit, dans la colonisation à petits pas, dans le refus de l'État palestinien. Mais l'annexion pure et simple, cela ne s'est jamais dit de cette manière. Et oui, nous sommes dans une nouvelle donne. Et il est intéressant de suivre cette affaire-là, voir comment cela va se passer, bien que je ne prévois pas que demain on va annexer l'agence ou même des morceaux de l'agence. Il y a tout de même loin de la coupe aux lèvres.
D'accord. Dites-moi, Elie Barnavi, à quoi David Friedman fait-il allusion quand il parle de l'annexion ? Il dit « dans certaines circonstances ». Et pourquoi le département d'État n'a pas confirmé ces déclarations ?
Parce que c'est contraire à la politique traditionnelle des États-Unis, dont le département d'État, qui est d'ailleurs en fait une mauvaise posture, vous savez, il est ignoré, méprisé. Mais bon, c'est tout de même le bastion de la tradition diplomatique des États-Unis, mm-hmm. qui n'a jamais admis l'annexion, qui pense encore, du moins c'est la politique officielle, trouver une solution diplomatique au conflit israélo-palestinien. Or, dire annexion, c'est dire que l'on a renoncé tout simplement à toute solution négociée du conflit israélo-palestinien. C'est une chose que la plupart des faiseurs d'opinion et des politiques aux États-Unis n'admettent évidemment pas. Mais il faut aussi savoir que quelqu'un comme Friedman est beaucoup plus proche du président des États-Unis et beaucoup plus influent à la Maison-Blanche que tous les diplomates du Département d'État pris ensemble.
D'accord. Donc c'est un proche du président Trump.
Ben oui, il a été pendant longtemps son avocat. C'est un spécialiste de banqueroute, hein, ça ne s'invente pas. Et c'était l'homme très, très proche de Trump, c'est pas pour rien qu'il l'a envoyé aux États-Unis. C'était un juif orthodoxe, très à droite, et donc il est tout à fait en phase avec la Maison Blanche de Trump, d'où il a expulsé tous les éléments d'ailleurs modérés et modérateurs pour s'entourer d'une équipe jusqu'au boutiste.
D'accord, ce n'est pas un ambassadeur lambda, quoi.
Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui existe par lui-même, qui est très influent, qui est puissant. Et donc, quand il dit quelque chose, si vous l'écoutez, ce n'est pas un caprice.
Alors, Elie Barnavi, est-ce qu'on peut dire que ces déclarations de David Friedman, qui est un homme important, ça se situe dans le cadre d'une approche tactique pour avancer le mystérieux plan de paix des États-Unis que prépare Jared Kushner, l'envoyé de Trump, et qui était en Israël il n'y a pas très longtemps, qui rencontrait Netanyahou? Est-ce que c'est lever un voile?
Franchement, je n'en sais rien, personne n'en sait rien, je ne sais même pas si lui-même le sait. C'était ce plan de paix fantomatique dont Greenblatt, Jason Greenblatt, qui est l'envoyé spécial du président au Proche-Orient, vient de déclarer qu'il serait probablement repoussé de nouveau jusqu'en novembre. Nul ne sait exactement, on a des fuites, mais nul ne sait exactement ce qui s'y trouve. Et ses chances d'aboutir ou même de commencer à exister sont tellement minces que ça n'en vaut presque pas la peine d'en parler. Donc oui, ça peut être une partie de ce dispositif, ou alors ça peut être une manière de dire, puisque les Palestiniens ne veulent pas de notre plan de paix, et on fera des choses de manière unilatérale, et Israël de jouer à quelque sorte. C'est une façon de prendre date à l'égard d'un refus palestinien qui existe déjà et dont personne ne doute qu'il va subsister. Il n'y aura pas de plan de paix américain, il y aura sans doute quelque chose, ou peut-être quelque chose, mais qui n'aboutira à rien. Et donc c'est une manière de dire, puisque vous n'en voulez pas, ben on fera ce que nous estimons nécessaire de faire, et c'est dans ce vide, n'est-ce pas, que ça sert la cette politique d'annexion de certaines parties de la zone C, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Si vous voulez, cela pourrait être l'élément d'un plan de paix qui ne verra jamais le jour.
D'accord. Alors, est-ce que vous pensez que dans ces conditions, Mahmoud Abbas, l'autorité palestinienne, a raison de pratiquer la politique de la chaise vide, puisqu'on sait qu'ils ne seront pas déjà à Bahreïn le 25 et le 26 juin ? Là où on discutera de ce fameux plan de paix que personne ne connaît.
Écoutez, il faut se mettre à sa place. On lui propose quoi, en fait? Réduit à sa plus simple expression, cette histoire de Bahreïn, c'est une manière de dire on fera de l'économie d'abord. C'est-à-dire on va remplacer toutes ces histoires de plan de paix, d'éléments territoriaux, tout ça qui ne marche pas. On va remplacer par, on va faire miroiter aux Palestiniens une paix économique. Ce n'est pas la première fois que cela existe. Vous savez, on a déjà vu ça dans le passé. C'était le cas dans la foulée du désengagement de Gaza en 2005, lorsque James Wolfson, le directeur de la Banque mondiale, a imaginé aussi créer les conditions d'une paix économique, d'un développement de la Palestine, en essayant d'aboutir, de renverser en quelque sorte l'ordre des choses, commencer par l'économie pour ensuite aboutir peut-être à la politique. Ça a été le cas quelques années plus tard avec l'envoyé spécial du quartet, qui était Tony Blair. Ben lui aussi, il a essayé d'agiter la promesse d'un développement économique. Bon, tout cela n'a pas marché. C'était des hommes de bonne volonté, ça n'a pas marché. Pour la bonne raison que ça ne peut pas marcher. Vous savez, s'il n'y a pas un élément politique, l'économie ne marchera jamais. Imaginez qu'on ait proposé aux Juifs en 48, plutôt qu'un État-nation souverain, indépendant, une offre économique importante, une espèce de d'en faire une espèce de Singapour sans souveraineté sur le Jourdain. Est-ce que Ben Gurion n'avait jamais accepté cela?
C'était pas le projet.
On n'achète jamais les aspirations à l'indépendance d'un peuple avec des incitatifs économiques. Ça ne peut pas être. Il faut être Trump pour imaginer que ça pourrait être. Alors, les Palestiniens ont fait assez d'erreurs dans leur combat pour la souveraineté. C'est une direction faillie, divisée, incapable.
Vous aussi, vous croyez que l'autorité palestinienne est au bout du rouleau?
Ah oui, elle est au bout du rouleau. Mm-hmm. Mais il y a une chose qu'ils ne peuvent pas faire, c'est brader les aspirations nationales des Palestiniens, sinon le lendemain, ils ne seraient plus là. Donc lui il n'a vraiment pas le choix. Les autres, ils y vont, en train dans les pieds, parce qu'ils sont, poussés par l'administration américaine et qu'ils décident de ne pas pouvoir dire non. Donc ils enverront des délégations de deuxième ordre, des hommes d'affaires, des choses comme ça. Et les Palestiniens ne peuvent pas officiellement s'y associer. Ce serait du coup, non pas le bout du rouleau, mais carrément le suicide. Et donc je comprends très bien qu'il n'y ait pas, il n'y a rien, il n'y a absolument rien à attendre.
Élie Barnaby, je vous remercie. Oui. Là, on arrive au bout de notre émission. Donc, j'espère vous avoir encore à notre antenne prochainement. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. Alors, je souhaite une bonne semaine à tous et à toutes. On se retrouve dans 15 jours pour une autre émission. C'était Paul Ouzimeyerson à l'antenne avec Chronique pour la paix.